La députée libérale porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Marois Riski, veut obtenir des réponses à l'approche de la rentrée scolaire. Elle a envoyé une missive au Dr Arruda, une missive où elle pose une trentaine de questions, des questions dont les parents attendent impatiemment les réponses. Elle est avec nous, Mme Riski. Bonjour.
Bonjour.
Bon, j'ai eu en entrevue hier la présidente du syndicat des enseignants de l'Outaouais. Elle aussi se posait beaucoup de questions. Pourquoi, Mme Riski, on n'a pas encore de réponse à 3 semaines de la rentrée scolaire?
Car à la mi-juin, le ministre de l'Éducation a déposé, entre guillemets, un plan pour le retour de la rentrée scolaire prévue à l'automne 2020. Mais dans cette idée qu'il a déposé, tout le monde a dit que ce n'est pas un plan de gestion de crise COVID-19, c'est vraiment un réaménagement de l'espace parce qu'il nous parlait de mettre les enfants dans des bulles de 6 élèves maximum. Nous, on veut savoir qu'est-ce qui arrive concrètement si jamais la bulle, elle pète. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un enfant qui se présente avec des symptômes de COVID-19. Comment qu'on teste? Qui qu'on teste? Où est-ce qu'on teste? Qui qu'on prévient? Est-ce qu'on prévient la bulle de 6 élèves? Est-ce qu'on prévient les parents de l'ensemble de la classe ou de l'école? Est-ce qu'une fois que l'enfant est testé positif, est-ce qu'on met l'enseignant et les élèves en quarantaine et on teste tout le monde? Alors, c'est plusieurs questions qui restent en suspens. Et je croyais sincèrement que le ministre Roberge aurait déposé un plan bonifié. Et lorsque nous, on s'est quittés à l'Assemblée nationale à la mi-juin, on lui a tous dit que nous sommes disponibles, on est tous au Québec cet été, alors on est disponible pour collaborer et vraiment travailler sur un plan, un protocole d'urgence. Et là, la semaine dernière, lorsque j'ai compris que non, le plan était le plan déposé à mi-juin et que c'était ça qui tenait le ministre en place, j'ai réalisé qu'il n'a pas pris la pleine mesure des changements qui ont eu lieu depuis la mi-juin. Notamment, on a vu ailleurs dans le monde qu'il y a eu davantage de cas de COVID-19, mais même chez nous au Québec, le port du masque est rendu obligatoire, même pour les enfants de 12 ans et plus, dans les lieux publics fermés. Alors, comment peut-on expliquer cette contradiction que pour entrer dans un dépanneur avec moins de 10 personnes, on doit porter un masque, mais dans une polyvalente avec plus de 1 500 élèves, non? Alors bon, là, ça, j'aimerais avoir des réponses.
Ça, Mme Riski, j'ai l'impression que ça, c'est un des... Comment je pourrais dire? Donc, quelque chose qui achale justement les parents, là, parce que c'est pas clair, on ne sait pas. On nous a promis des réponses la semaine prochaine. Mais là, effectivement, si on porte un masque en lieu public, mais pas dans les écoles, vous, qu'est-ce que vous demandez, Mme Riski, que les jeunes portent le masque, oui ou non, dans les écoles?
Je crois que la santé publique doit nous dire pourquoi qu'on ne porte pas le masque, notamment dans les déplacements dans les couloirs. Et je crois que si on veut faire preuve de cohérence dans les zones chaudes, donc où est-ce qu'il y a encore des cas de COVID-19, à ce moment-là, si on dit au monde de porter le masque dans les lieux publics fermés, alors à l'école aussi, dans les déplacements, pour notamment dans les couloirs. Et là, je ne sais pas si on doit aller aussi loin que lorsqu'on est assis à son pupitre, parce que, par exemple, au restaurant, dès lors qu'on est assis à notre place, on retire notre masque. Alors là, moi, je ne suis pas une experte de santé publique, mais je suis capable de voir les incohérences et de les soulever, et de voir aussi ce qui se passe ailleurs, parce qu'en Alberta, le masque est obligatoire, en Ontario, c'est obligatoire, en Allemagne, c'est obligatoire, et chez nous, au Québec, on se rappelle qu'on a beaucoup tergiversé à savoir si on rendait le masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Et finalement, on se rend compte que non, on aurait dû le rendre obligatoire peut-être même un peu plus tôt lors du début de la pandémie, non pas uniquement fin du mois de juillet. Et maintenant, de façon plus précise, moi, je veux savoir au niveau des masques, est-ce qu'on va les commander plutôt tôt que tard? Est-ce qu'il y aura aussi des prises de température? Si oui, est-ce qu'ils sont prévus d'avoir des commandes de thermomètres électroniques? Qui va prendre la température? Mais... est-ce qu'on peut emboîter le pas à l'Ontario, par exemple? Parce que juste chez vous, quand on traverse la rivière, vous savez, ils ont prévu d'avoir 500 infirmières et hygiénistes dédiés aux équipes écoles pour vraiment diminuer les risques de propagation et d'éviter qu'un foyer d'éclosion éclate dans une école.
Oui, et on est habitué ici... le cannabis, c'est 21 ans. L'autre côté de la rivière, c'est 19. L'alcool, c'est 18. L'autre côté, c'est 19. Là, le masque obligatoire, il n'est pas... Oui, on commence à être habitué, je vous dirais, dans la région de Gatineau-Ottawa. Bon, là, comment on a procédé en mai dernier, parce qu'il y a eu des cours en mai dernier au primaire? Est-ce qu'à ce moment-là, on prenait la température des élèves? Est-ce qu'il y avait des bulles? Est-ce qu'on va, selon le gouvernement, là, selon la CAQ, est-ce qu'on veut refaire la même chose en septembre qu'on a fait en mai dernier?
Il faut se rappeler qu'en mai dernier, c'est seulement le primaire qui est retourné à l'école et non pas le secondaire. Et il faut aussi se rappeler que c'était sur une base volontaire. Alors que là, le 25 août et par la suite en septembre, c'est plus d'1 million d'élèves qui retournent à l'école. notamment le secondaire, et que les études se suivent, et malheureusement, l'une se contredit. Certaines études disent que les enfants n'ont pas une charge virulente, alors que d'autres disent que oui. Alors moi, je préfère l'approche « trop fort casse pas », donc la plus grande prudence, et à ce stade-ci, pour moi, c'est de ne pas attendre, tel que mentionné par le ministre Roberge, au 15 septembre pour déposer un protocole d'urgence. Tant qu'à moi, c'est avant la rentrée scolaire qu'on doit savoir à quoi s'attendre. Vous me parlez du mois de mai. Au mois de mai, lorsqu'on retournait les enfants de l'école primaire, c'était à géométrie variable. Certains endroits, c'était une fréquentation de 50 %, d'autres 80 %, d'autres à 95 %. Et on parle vraiment d'enfants du primaire. Et les enfants plus vulnérables, évidemment, sont restés à la maison. C'est ce qui avait été vraiment suggéré fortement pour les parents. Puis même les parents ne prenaient pas de chance, heureusement. Et je vous dirais que lorsque, par exemple, il y avait des cas de COVID-19, c'était pas tous les parents qui étaient informés. Ça prenait du temps. Donc, il y avait à ce moment-là de l'inquiétude. Et pendant des semaines, les enseignants demandaient la chose la plus simple au monde. Vont-ils recevoir, oui ou non, le matériel de protection? Parce qu'un enseignant, c'est pas vrai qu'il va rester à 2 mètres de distance lorsqu'il doit intervenir à un enfant qui est dans une crise. Il va falloir qu'il se rapproche. Alors, il faut connaître aussi le vrai milieu de l'éducation. C'est pas que tous les enfants sont sages pendant 6 heures en ligne en classe, là. C'est pas vrai. Ça arrive pas. Ils vont bouger. Et nécessairement, il y aura, à un moment donné, un enseignant qui va être à 1 mètre ou carrément tout près de l'élève. Oui. Et ça, c'est normal. Alors, moi, j'appelle le ministre ainsi que Dr. Arruda. Dès maintenant, fournissez le matériel sanitaire de protection à l'ensemble des équipes écoles, autant les enseignants que l'orthopédagogue, l'orthophoniste, le concierge, tout le monde doit être équipé. On n'a pas le luxe de perdre notre monde dans le réseau d'éducation. Au contraire, on est en pénurie.
Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs au Québec. Je sais que la présidente du syndicat des enseignants d'Outaouais me disait hier que déjà avant la pandémie, il y avait un problème de personnel en Outaouais. On manque de personnel. S'il fallait qu'il y ait des éclosions de COVID, on va faire quoi, vous pensez, dans nos écoles?
Ben écoutez, j'ai bien peur que ce soit l'angle mort et que nos écoles deviennent un peu nos CHSLD. C'est parce que rien n'est préparé d'avance. Là. Alors là, il faut se donner les outils pour que le pire n'arrive pas. Le ministre, en ce moment, se croise les doigts en espérant que tout va bien aller. Ça, c'est de la pensée magique. Moi, je comprends l'inquiétude de tous les enseignants parce qu'il y en a plusieurs aussi qui m'écrivent. Effectivement, on n'a pas le luxe de perdre nos enseignants. Malheureusement, cet été, je lisais une professeure, Naomi Goyette, qui est professeure à l'UQTR, qui fait vraiment de la recherche documentée sur les risques de départ à la retraite. Et c'est la première fois qu'on a vu vraiment une vague d'épuisement chez nos enseignants qui ont même songé à faire des départs hâtifs à la retraite. Alors moi, quand je dis ça, j'interpelle le ministre et je dis il faut vraiment qu'on se conserve et s'assurer qu'on est capable de retenir nos enseignants. Et je vais vous donner un exemple concret.
Oui.
Le milieu culturel là, a été durement touché, on le sait. Alors moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de confirmer les contrats d'enseignement en musique avec le milieu culturel. Je ne comprends pas qu'on n'est pas capable de déplacer certains élèves, notamment secondaire 4 et 5. Vous vous rappelez que le ministre disait qu'eux ne revenaient pas à 100% à l'école, donc c'est 50-50. Donc moi, je pense que les parents ne veulent pas nécessairement que l'enfant tourne les pouces dans 50% à la maison. Là. Alors pourquoi on ne va pas justement réquisitionner d'autres lieux, notamment des salles de spectacle, des salles de théâtre, des salles communautaires, des musées, avec justement, on peut apprendre le français en chantant, en faisant de l'art dramatique. On peut vraiment être créatif. Puis plus particulièrement chez vous, je parlais avec Maryse Gaudreau, ma collègue, la députée locale. L'école Montbleu, secondaire, c'est 1500 élèves, oui. Mais secondaire 4 et 5, eux autres, là, il se passe quoi avec eux? Parce qu'à ce jour, le ministre n'a pas annoncé des sommes additionnelles pour justement louer d'autres espaces, toujours à la même école de métier spécialisée, si ma mémoire est bonne, Asticot. Alors,
oui,
je pense que c'est le temps qu'on ait un plan de match, notamment plus particulier pour chez vous. Là.
Est-ce que vous avez parlé ou avez-vous tenté de parler avec le ministre Roberge?
Tout au long de la pandémie, là, mes collègues et moi, là, l'ensemble des partis d'opposition, on a toujours parlé avec le ministre. On lui a donné un paquet de suggestions et de propositions. Puis à chaque fois, il nous revenait que c'est santé publique qui veut pas. Quand on dit comment ça se fait qu'on peut pas retourner les parents chercher le matériel scolaire des enfants, la santé publique veut pas.
Oui.
Et pour nous, c'est une aberration. On dit crime. Les parents sont capables de faire la ligne devant la SAQ pour aller chercher de l'alcool, mais vous êtes en train de dire qu'ils sont pas capables de faire une ligne ordonnée pour aller chercher du matériel scolaire à l'école. Ça n'a aucun sens, là. Alors là, moi, je me suis dit, si le ministre ne veut plus nous entendre, il ne veut pas convoquer de réunion d'urgence, là, on va se dire, il commence à être minuit moins quart cette semaine, pour vraiment planifier et avoir un protocole d'urgence, bien, à ce moment-là, je vais m'adresser au docteur de la santé publique. Je pense que l'éducation, on n'a pas le droit, nous, d'avoir une deuxième vague d'improvisation cette fois-ci. Là.
Madame Rizky, il me reste une minute. Est-ce que vous avez une réponse de la part du docteur Arruda?
Non, pas encore, mais écoutez, j'ai envoyé ma lettre hier soir. Alors, habituellement, c'est une personne, je sais, qui travaille très fort. Je suis convaincue que les 32 questions trouveront réponse auprès de lui. Mais sinon, à tout le moins, je suis certaine que dans l'équipe ministérielle, devant l'absence du ministre, d'autres ministres comprendront que c'est un enjeu qui touche toutes les familles québécoises. Ça mérite des réponses.
En terminant, Mme Rizky, est-ce qu'on est en train d'installer la génération COVID-19?
Je vous souhaite que non, mais malheureusement, nous, on a demandé des camps pédagogiques pour la rentrée scolaire. C'est toujours pas fait. On sait qu'il y a des rattrapages à faire importants et des retards qui sont accumulés, notamment avec les élèves plus vulnérables. J'espère que non. Et Gide Royer, qui est un expert en éducation, mentionne que le risque de décrochage, malheureusement, est plus élevé. Particulièrement avec les jeunes qui sont allés travailler 14, 15, 16 ans, qui sont allés travailler durant la COVID-19. Quand c'est plus payant d'aller à l'école, d'aller travailler que d'aller à l'école, des fois, les jeunes font un calcul très, très court terme et ne se rendent pas compte qu'au contraire, l'éducation va leur donner les moyens de leur ambition. Et c'est là que moi, je demande au ministre, là, il n'est pas trop tard pour bien faire. Convoquons une réunion. Mettons des outils additionnels pour l'ensemble des équipes écoles, parce que même les professeurs ne sont pas capables de rattraper tout seul tout le retard qui s'est accumulé.
D'accord. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Mme Rizky.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Merci. Au revoir, la députée libérale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Marois Rizky.